And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Bon, je le pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du 12e homme, je suis très content d'être là. Bonjour à Thomas, bonjour à Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Au programme du jour, la Ligue 1 bien sûr, la 25e journée. Nos points pour vous expliquer l'actualité de notre championnat. Les top flops, un petit voyage en Espagne juste après, suivi du bilan européen des clubs français la semaine dernière en Ligue Europa. Tout d'abord, les résultats de cette 25e journée. Lille enchaîne et bat Brest 2 buts à 1. Lyon gagne chez le dernier facilement 3 buts à 1. Montpellier et Lens se neutralisent 1 partout. Auxerre gagne des points précieux en battant Lorient chez lui 1 à 0. Ajaccio bat 2 buts à 1 dans un match important pour le maintien. Match nul entre Clermont et Strasbourg 1 partout. Rennes bat Nantes 1 à 0. Reims explose Toulouse 3 à 0 dans ce match du ventre mou de la Ligue 1. Monaco se fait explosé par Nice 3 buts à 0 à domicile. Et Paris en fin de journée surclasse Marseille 3 buts à 0. Les Parisiens sont dans une autre galaxie. Et maintenant, trêve de stats, on passe à la parole.
La France est fantastique. Grande rugador. Per tu, sì, par la cheminée. Dans la coche. Gracias.
Et on commence avec Thomas qui va nous parler de l'OGC Nice où on assiste à une véritable renaissance sur la Côte d'Azur. 8 matchs sans défaite, 10 gars invaincus. Pas grand monde n'y croyait. Et pourtant, les Aiglons remontent dans le classement. Thomas, il t'impressionne les Aiglons?
Moi, ce qui m'impressionne, c'est j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils mangent le matin depuis que Guy est arrivé, qu'est-ce qu'ils mangent le midi, qu'est-ce qu'ils mangent le soir. C'est assez fou ce que fait Didier Digard. Je sais pas si c'est vraiment l'effet Didier Digard ou c'est plutôt les joueurs qui ont le déclic de se dire tiens, il faut qu'on joue au foot peut-être dans la saison. Parce que ouais, depuis que l'arrivée, il n'y a pas de défaite. Dans le jeu, ça joue plutôt pas mal, on va dire. C'est sympathique. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant avec la renaissance de Nice, on va revenir après dessus, c'est que ça montre bien que dans le football, l'aspect mental, il est primordial. Parce que pour moi, là, les joueurs qu'il y a, c'est les mêmes hein, depuis le début de saison. Ouais. Ils n'ont pas perdu tout leur football juste pendant 6 mois avec Lucien Favre. C'est juste que, en fait, le contexte, je pense que c'est le contexte qui fait la différence. Par exemple, tu peux prendre un transfert, je sais pas, un joueur comme Werner, par exemple, qui signe à Chelsea, qui est bon, c'est un bon joueur à Leipzig, il fait des bons matchs et tout. Il arrive à Chelsea, et d'un coup, il met pas un pied devant l'autre, il est nul. Il quitte Chelsea, il revient à Leipzig, et là, il redevient bon. Et en fait, le contexte fait qu'un joueur très très bon ne puisse pas s'exprimer dans un autre club. Pourtant, le joueur n'a pas perdu sa qualité. Donc, le contexte fait la différence. Et alors, à Nice, ce qui est intéressant, c'est que le contexte, il a beaucoup changé. Avec l'arrivée d'Igar, qui a remis un peu les points sur les i et les barres sur les t, comme on dirait. Et l'équipe, elle est métamorphosée. Et Schmeichel, par exemple, qui n'était pas un pied devant l'autre, le match contre Lille, le fameux match contre Lille dont on a parlé où Lille rate 3 face à face en première mi-temps, Schmeichel, certes, voilà, il fait un match magnifique. Pareil derrière Dante, je l'envoie à la retraite quasiment. Et là, je sais pas ce qui se passe dans leur tête aux joueurs, mais Dante il redevient très très bon. Au milieu de terrain, un joueur qui était absent, c'était Ramsey qui était vraiment nul. Et depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un autre joueur. C'est le vrai Ramsey. Pareil, Laborde, en fait. Laborde, je pense, c'est plutôt une position tactique, son problème avant. Laborde, il aime bien jouer avec un deuxième attaquant. Et là, il a Mofi. Donc, il peut tourner autour, servir à faire des déviations de la tête, comme il aime faire. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc, voilà. Et Nice, bah, ils sont 7e, avec 41 points, à seulement 5 points de la première place européenne. Et on se demande s'ils vont y arriver. Moi, on disait, c'était dans la première émission ou la deuxième, qu'ils n'allaient pas y arriver. Franchement, vu la forme des équipes devant, parce que devant, il y a Rennes qui est en train de couler, il y a Lille qui est très irrégulier, peut-être que Nice va pouvoir tirer son épingle du jeu et pourquoi pas accrocher une place européenne. Alors, ils ont aussi la Ligue Europa Conférence à jouer. Ils vont jouer contre Sheriff Tiraspol. J'espère qu'ils vont faire honneur au club français, pas comme les derniers. Ce sera pas facile quand même. On verra, mais franchement, ce que fait Nice, enfin ce que fait Didier Digard et ce que font les joueurs, c'est-à-dire jouer au foot, ça fait bizarre. Malgré tout, on sent qu'il y a un engouement, mais comme a dit, j'ai l'impression que l'engouement il est à moitié. C'est-à-dire que le stade répond à moitié présent. Il manque quelque... enfin, franchement, si les joueurs ne viennent pas au stade avec un classement, une remontée comme ça, je comprends pas.
Après, là, pour rebondir tout de suite sur la question du stade à Nice, en fait, faut savoir qu'en fait, il y en a du monde au stade. Beaucoup de supporters niçois, en fait, ils se trompent parce que depuis que c'est passé à l'Alliance, en fait, ben, t'as au moins 5000 personnes de moyenne de plus. Ça veut dire que t'étais à 12 000 en moyenne au stade du Ré, et là, t'es à 20 000. Donc, en fait, c'est faux, tu remplis pas le stade. En fait, il y a presque deux fois plus de monde que là, c'est juste que le stade est trop grand. C'est...
Après, Nice, c'est une grande ville. Enfin, ouais, je sais pas.
Nice, c'est une grande ville, c'est juste que c'est ouais, pas, mais... ça sera pas une ville de sport, quoi. C'est que là, ça mobilise beaucoup plus.
Il y a pas l'ADN que... du foot, comme il y a.
C'est ça, parce que les supporters, ils se plaignent, on remplit pas le stade, on remplit pas le stade, mais si, ils le remplissent beaucoup plus qu'avant. Et toi, du coup, Jean, pour rebondir sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, est-ce que tu vois Nice accrocher l'Europe, par exemple?
En tout cas, ils peuvent, avec la méforme de Rennes en ce moment et l'irrégularité de Lille. Peut-être aller chercher Marseille et Lens, peut-être pas, je sais pas.
Ah non.
Je pense pas. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est sur l'aspect mental. C'est vrai que il y a eu un déclic dans ce jeu. Je pense que Digard a amené un discours assez, je pense, musclé. Et puis, voilà, il a été exigeant, mais il fait confiance aux joueurs. Quand on voit, il y a une vidéo qui a tourné où il dit un joueur, je sais plus lequel, mais quand il dit frappe, il frappe et il...
Ah ben la merde,
Bilal Brahimi,
voilà.
Il met un but incroyable, mais voilà, il a 30 mètres du but, mais vas-y, tente des choses. Ouais. Et je pense qu'il y a un aspect mental et une libération des joueurs qui fait que ils sont à leur niveau, je pense. Ils ont retrouvé leur niveau.
Ouais, ils sont revenus, parce que sur le papier, dès le début de la saison, de toute façon, c'est plein de circonstances, parce que par exemple, tu disais Ramsey retrouver la Coupe du Monde, en fait, faut savoir que lui, il a sa femme et ses enfants, ils sont encore en Angleterre. En fait, il les avait pas vus depuis 6 mois. C'est la Coupe du Monde. Bon, il a dit ouais, je suis déçu de sortir au premier tour. Bon, comme s'il s'y attendait pas, parce que le Pays de Galles. Voilà, mais voilà, c'est plein de joueurs qui retrouvent leur forme et.
Oui, il y a plein d'aspects derrière le terrain. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Oui. La famille, l'entourage, tout ça. Bon, c'est très intéressant ce que fait Nice. Il faut que Digard reste l'année prochaine, je pense. Il faut que le recrutement se passe bien. Puis. Il pourra se passer quelque chose l'année prochaine, pourquoi pas.
Ouais, à suivre, affaire à suivre, donc à Nice. Jean, tu voulais nous parler du difficile retour en championnat des clubs européens, donc on joue en Europa League. Donc Monaco, Rennes et Nantes, ça s'est passé comment pour eux?
On a appris au collège le crack boursier de 1929 et le jeudi noir. Et ben jeudi dernier, on a vu un jeudi noir pour les clubs français, 0 sur 3. En Ligue Europa, mais on en reviendra un peu plus en détail dans cette émission. Mais donc pour ces équipes, il fallait se remettre la tête à l'endroit. Et quoi de mieux que des derbies pour se remettre en forme, se remettre en jambes. En effet, Nantes et Rennes s'affrontaient, tandis que Nice et Monaco jouaient contre au Stade Louis II. Dans le premier match, le derby breton, les deux équipes n'étaient pas du tout sûres d'elles avant de jouer. Et on peut dire que ça s'est vu. Le premier à craquer, c'est Nantes qui a raté trop de choses défensivement, qui était trop large, trop de largesse défensive, et permet à Doku de marquer en se faufilant dans la défense. Les deux équipes étaient friables et concèdent des occasions. En seconde période, on a vu un manque de confiance. Nantes a été maladroit pour venir au score et Rennes a mis le bus pour garder ce petit but d'avance, oubliant d'attaquer. Mais le principal pour eux, c'était franchement la victoire et voilà, se rassurer au plus vite après cette défaite contre le Shakhtar. Et Nantes continue dans leur maladresse offensive, malgré aussi, quand même, il faut le dire, un très bon Mandanda. Un match pas non plus ignoble à regarder, mais où on a vu des équipes encore marquées physiquement et psychologiquement par leurs éliminations. Et il y en a d'autres qui étaient bien marqués aussi, c'est Monaco. Alors qu'ils étaient sur une très bonne dynamique, aucune défaite en Ligue 1 depuis 2023, mais en une semaine, plus rien ne va. Défaite au tir au but assez cruel face au Bayer Leverkusen, et cette lourde défaite 3-0 dans le derby face à Nice. Moi, je ne suis pas vraiment dans une grande inquiétude. Je pense que Monaco a montré dimanche... ce qu'a montré dimanche Monaco n'était pas représentatif de leur vrai niveau de jeu. Ils étaient, je pense, émoussés physiquement et sont tombés face à une équipe niçoise très bonne, il faut le dire, et aussi, voilà, on vient d'en parler, revigorés et ils avaient une énorme envie. Voilà, je pense que Monaco était touché psychologiquement. Danger, je ne pense pas. En tout cas, il va falloir vite se reprendre. vite reprendre défense pour repartir dans la course à l'Europe face à Lens.
Ouais, du coup, Thomas, toi, tu penses que ça peut être fatal, ces éliminations pour ces équipes, parce que ça peut vraiment enrayer leur dynamique ou vraiment les plomber Nantes, plomber Monaco ou Rennes.
On va le voir tout à l'heure, mais je ne mets pas les équipes dans le même panier. Ouais. Déjà, je mets Nantes, je les sors tout de suite du panier de la honte. Donc, pour moi, le match entre Rennes et Nantes, je n'ai pas pu regarder le match, mais il y a deux aspects différents. Pour moi, c'est Rennes, aspect psychologique, et Nantes, aspect physique. Parce que Nantes est en joue à 10 déjà pendant tout le match. Bon, Rennes a joué les prolongations, mais ils ont un effectif qui est fait pour jouer normalement sur les deux tableaux. Comme tu l'as dit, je pense que la victoire 1-0 de Rennes, avec un but de Doku, qui est très en forme en ce moment, pourtant j'aime pas du tout ce joueur, je trouve qu'il est mais alors horrible, il fait toujours la même chose, il bouge son pied là, il bouge son pied droit, hop, et il part sur le côté. Bref, ça c'est un détail. Donc Rennes qui garde le score 1-0, alors savoir que Rennes, ça va leur faire, à mon avis, énormément de bien mentalement, parce que depuis les derniers temps, ils n'arrivaient plus à gagner, déjà, ils n'arrivaient plus à garder leur cage inviolée, et garder le but vide, deux buts, avec Mandanda qui a fait un gros match apparemment, je trouve que c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de Monaco-Nice, alors je n'ai pas pu regarder le match non plus, mais je suis déçu parce que je voulais voir ce match, mais Monaco, je sens le danger arriver à Monaco. Parce que déjà, Clément, il a une situation fragile déjà. Je trouve que c'est très fragile. Il était déjà à deux doigts d'être viré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Il va falloir qu'il garde le vestiaire. Ils ont un effectif pour jouer le podium, voire le titre. Hein. Donc à eux de faire les choses nécessaires pour rester sur le podium. Il y a des équipes derrière qui poussent, Lens, qui a égalité de points, même différence de but. Donc à voir. Monaco, ça va être très très dur dans les têtes de revenir de la Ligue Europa, parce que c'est vraiment une désillusion, mais la saison n'est pas finie, il va pas falloir qu'il lâche, donc attention à Monaco et attention à Rennes.
Voilà, donc maintenant on va passer à nos top flops. Jean, quels sont tes top flops du week-end?
Bon, même le top, ça va être le PSG quand même, dimanche, qui a gagné ce classico déterminant pour le titre. PSG 3-0, Mbappé dans un autre monde, voilà, il n'était pas là à la Coupe de France et on l'a vu. Mbappé, moi je suis quand même content pour le PSG qui gagne ce dimanche, parce qu'il représente quand même la France en Coupe d'Europe, et j'espère que ça va les remettre à la tête en endroit, parce que j'aimerais quand même qu'il passe face au Bayern. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais je pense que voilà, il nous faut un club français au moins en Ligue des Champions, et je pense que le PSG a quand même les armes pour aller battre le Bayern la semaine prochaine. Et mon flop, c'est Bailly, qui a été avec Marseille pris par la vitesse de Mbappé. Bon, il y en a beaucoup de défenseurs qui sont pris comme ça, mais je l'ai trouvé quand même assez lent et un peu passe. Voilà, il n'a pas bien remplacé Mbamba.
Donc moi mon top c'est Kefren Thuram et l'OGC Nice. Donc l'OGC Nice lors de sa victoire 3-0, donc Kefren Thuram partout dans la projection, en attaque, en défense, même à la fin il est sorti vers la 70e et Digard au début voulait pas le faire sortir, mais les crampes, le joueur est sorti. Donc très grand match de Kefren devant son papa Lilian Thuram. Et mon flop, un peu comme Jean, c'est Marseille qui n'a pas su être à la hauteur du rendez-vous, qui a été un peu dépassé, même si, à l'image de leurs 20 premières minutes ou par moment dans le match, ils avaient quand même réussi à mettre la pression sur le PSG, mais sans concrétiser. Donc Thomas, quels sont tes top flops du week-end?
Moi, mon top, c'est le japonais Ito de Reims, qui a fessé Toulouse, malheureusement pour moi, mais il a fait un très 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 gros match. Il a été, c'est lui qui est à l'origine de tous les buts, tout simplement. Il a mis 2-3 petits ponts sur les défenseurs toulousains et il a cassé des reins. Non, franchement, il a fait un match de numéro 10, un match de... Il m'a fait penser à Modric sur le match, franchement. Une grande qualité de vision du jeu. Le flop, c'est le staff de Lille, avec le match Lille-Brest, où à la fin du match, Lille gagnait 2-1 sur un match médiocre, où à 90e, je crois, ils envoient des ballons sur le terrain pour que le jeu s'arrête. Ils envoient un ballon, deux ballons, trois ballons pour que le jeu s'arrête, pour gagner le score. Juste avant, il y a eu une grosse engueulade avec Fonseca qui a pris son rouge. Et donc, bah, ça, je trouve ça inadmissible de faire ça. En plus, c'est Brest. Si tu dois faire ça contre Brest, c'est qu'il y a un problème, à mon avis. Hein. Après, Eric Roy, l'entraîneur de Brest, bah, il a été extrêmement énervé. Je crois qu'il allait taper les staffs de Lille. Bah, je pense que c'était mérité, il aurait dû les taper. Mais en tout cas, c'est pas cool, c'est pas fair play.
Voilà, donc manque de fair play de la part des...
C'est une tactique.
Lilloise. Ouais, tactique, ouais. Donc vous écoutez bien le 12e homme sur Radio Campus tous les mardis soirs.
Pour être faible et pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde.
Donc on continue avec notre petit voyage du jour. On part en Espagne où le Real Madrid nous montre encore qu'ils sont un peu les rois de la Ligue des Champions. Ils nous le prouvent encore, Jean. Tu vas nous parler du Real Madrid.
Alors, on parle pas totalement en Espagne, on va en field quand même,
ouais,
pour voir ce match. Quel match ? On commence à en avoir un peu l'habitude des Real Liverpool, puisque c'était l'affiche de la dernière finale en 2022, et celle de 2018, mais aussi le quart de finale de la saison 2020-2021. Et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Pourtant, au début de match, on aurait pu dire le contraire. 2-0 au bout de 15 minutes pour les Reds. Le Real est un peu sonné, à l'image de Courtois qui fait une bourde monumentale pour le but de Salah. Un milieu de terrain, Camavinga, Modric, Valverde à la peine. Où il y a un nombre incalculable de glissades de Camavinga. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup pendant ce match. Les Reds jouent verticalement, à l'image d'Alexander Arnold qui met des longues balles, comme j'aimais bien qu'il m'y faisait. Et avec un Gakpo vers l'avant, Núñez vers l'avant aussi, il mettait une bonne pression, et à l'image aussi du but de Courtois, mais le Real Madrid n'est pas une équipe comme les autres. C'est Vinicius sur une merveille de frappe qui va sonner l'alarme, et là, le match change. Énorme intensité du Real Madrid, et les défenseurs des Reds sont beaucoup trop loin. Et une nouvelle fois, de l'autre côté, Alisson se fait prendre par l'intensité de Vinicius, et fait aussi sa petite bourde. Et là, le match change réellement. Il y a 2-2. Vinicius était sur une autre planète sur ce match. PSG peut s'inspirer de l'intensité madrilène et de leur force de caractère. Car le Real a montré toutes les lacunes défensives des Reds, notamment sur le coup franc et le but de Militao où il est absolument seul. Et puis après, Liverpool est sous l'eau. Et Benzema les noie, deux buts. Et Reds s'effondre. Mais aussi, surtout, une énorme intensité. Dès le 2-2, il y a Modric une nouvelle fois, il a montré sa classe et sa maîtrise des émotions. C'est un cyborg, ce mec, j'adore ce joueur. Et voilà, le Real Madrid a 9 orteils en quart de finale, je pense. Et quand même, gros match, les Madrid.
Est-ce que le Real Madrid a 9 orteils
Non, ils en ont 10.
Ouais. Non, pas lâcher. Mais bon.
Le Real, quand on parle du Real, on parle du plus grand club de l'histoire du football. Tout simplement, déjà, il n'y a pas de discussion. On parle d'un club de la Ligue des Champions, le club qui a ça dans le sang. On parle, à chaque ligne, vous avez pour moi le meilleur joueur du monde à son poste. Hormis devant, parce qu'il y a Mbappé. Mais sinon. Sur gardien, il n'y a pas meilleur gardien que Courtois, à mon avis, au monde. Défenseur, il n'y a pas meilleur défenseur que Rüdiger, à mon avis, en ce moment, au monde. Milieu, il n'y a pas meilleur milieu de terrain que Modric, au monde. Bon, devant, Benzema, je le mets plus en 9-10, allez. Mais je pense que c'est le meilleur dans ce rôle dans le monde aussi. C'est une équipe qui n'est jamais aussi bonne que quand elle est dos au mur. On l'a vu l'année dernière contre le PSG, on l'a vu contre Chelsea, on l'a vu contre City, et on l'a vu contre Liverpool. À chaque fois, ils ont gagné en finale contre Liverpool, ils sont ultra dominés, mais ils gagnent... en marquant un but en contre. Bref, le Real, pour moi, mais moi je le dis chaque année, c'est les favoris de la Ligue des Champions. Déjà, l'année dernière, je le disais, dès qu'ils ont battu le PSG, je savais qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. J'étais persuadé, je le savais, c'est évident pour moi. Cette année, je vous dis pas qu'ils vont la gagner, mais je vous dis qu'ils vont aller minimum en demi. Et puis, franchement, moi, je sais pas de qui on pourrait parler comme individualité dans cette équipe. On pourrait parler de Modric, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Oui, oui, j'ose le mot, de l'histoire. Meilleur que Xavi, meilleur qu'Iniesta, largement. On pourrait parler tout de suite, mais en fait, c'est un collectif. Franchement, la Maison Blanche est de retour.
Ouais. Voilà, à la fin, c'est
puis
toujours...
Je pense aussi que le parcours de l'année dernière les a vraiment formés. forger un caractère énorme. On voit Benzema où c'est un leader vraiment naturel.
Oui.
Je pense que ils vont faire mal. Et aussi, je suis inquiet pour Liverpool, hein, parce que là, Liverpool, même sur le but de Militao, enfin la tête, c'est aberrant comme il est seul. Alors que c'est un coup franc, bon, il y a tout le monde dans la surface et tout, il est tout seul et il marque.
Mais de toute façon, on risque de peut-être de pas voir Liverpool en Coupe d'Europe l'an prochain.
Non, mais
vu leur forme même en championnat.
Cette année, Liverpool et Chelsea, ils sont pas là en championnat.
Ouais.
Je voulais oublier de dire aussi de saluer le travail de Monsieur Carlo Ancelotti quand même, qui est un immense entraîneur. Donc, ouais. Je voulais saluer ça aussi.
Voilà, donc on verra bien si à la fin c'est toujours le Real qui gagne. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, il y en a qui ne gagnent pas. 3 matchs, 3 défaites en Europa League. La Ligue des Talents, donc éjectée d'Europa League, c'est Thomas qui nous en parle.
C'est la Ligue de la Honte. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais enlever Nantes du panier de la honte, parce que pour moi, Nantes, c'est la seule équipe qui a vraiment joué la compétition. Ils n'avaient pas l'effectif pour. Ils sont qualifiés par le biais de la Coupe de France. Donc, ils seraient jamais en Ligue Europa s'il n'y a pas eu la Coupe de France. Donc, Nantes, pour moi, leur parcours est réussi. En plus, la Beaujoire pleine à craquer, il y a de l'ambiance, tout ça. Bravo, bravo Nantes. Hop, sur le côté. Maintenant, on va parler des deux autres. alors, on peut commencer par Nantes. Non, pardon, je suis bête. Par Rennes. Je suis omnibulé par Nantes. Par Rennes. Rennes, qui est pour moi l'équipe la plus honteuse de la compétition entre les clubs français, puisque quand tu perds contre un club qui ne joue pas de match depuis 3 mois, qui voit son pays en guerre avec des joueurs qui ont autre chose à penser que jouer au foot, avec des Brésiliens qui sont partis de l'équipe, quand on sait que les Brésiliens c'est 70% de l'équipe, c'est honteux. En plus, on peut avoir des regrets sur les tirs au but, parce que les tirs au but, Genesio l'a dit, c'est la loterie, c'est n'importe quoi, c'est pas la loterie. Hein. On l'a bien vu, il y a une photo de la bouteille du gardien ukrainien qui est sortie. Alors, si c'est, je veux bien la loterie, moi je veux bien jouer à la loterie avec des statistiques et gagner à tout à chaque fois. Hein. Donc ça marche pas. Monaco, pareil, qui se fait éliminer. Bon, Monaco, il joue contre une équipe qui est à peu près équivalente, on va dire. C'est pas aussi honteux que Rennes. Mais à domicile, à la maison, pareil au tir au but avec Nubel. Nubel, il n'a pas sorti un tir au but, il n'a pas fait grand chose dans le match. Donc c'est aussi honteux. Et alors je voulais revenir sur un point plus général, parce que c'est sympathique, mais la Ligue européenne, on dit que le championnat français c'est le top 5 championnat européen. On dit que la Ligue 1, ça évolue tous les ans, il y a des super équipes, des super joueurs, des super entraîneurs, des mauvais arbitres, mais... en fait, si on regarde les clubs qui se qualifient en Ligue Europa, c'est toujours les mêmes en soi. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous prenez le classement de n'importe quel championnat, on peut prendre le classement de la Première Ligue par exemple, on fait premier de la Première Ligue contre le premier de Ligue 1, qui gagne ? Le premier de la Première Ligue. Deuxième de Première Ligue contre le deuxième de Ligue 1, qui gagne ? Le deuxième de Première Ligue. Troisième de Première Ligue contre le troisième de Ligue 1, qui gagne ? Troisième de Première Ligue. On peut continuer comme ça jusqu'à la 20e place. Hein. Ensuite, on va reparler en Espagne. Premier d'Espagne contre premier de France, qui gagne ? Là, c'est plus serré, mais juste parce qu'il y a Mbappé, sinon c'est le Barça. On peut faire à la deuxième place, qui gagne ? Le Real. On peut faire pareil en Allemagne. Le premier qui gagne ? Le Bayern. Le deuxième qui gagne ? L'Union Berlin contre Marseille. Bon, là, c'est différent, mais c'est possible aussi. On peut faire pareil. On peut même faire pareil en Belgique. On peut faire pareil en Turquie.
Ouf.
Non, non. Alors moi, je me suis amusé à regarder qu'est-ce qui reste comme club dans la compétition. Alors, hein, on a combien de clubs turcs ? On a encore 2-3 clubs turcs. Il y a combien de clubs français ? 0. On a combien de clubs belges ? On a 2-3 clubs belges. Combien il reste de clubs français ? 0. On a 2-3 clubs néerlandais. Combien de clubs français il reste ? 0. On a 2-3 clubs portugais. Combien de clubs français il reste ? 0. Voilà. Tout simplement, les championnats européens. Nous, on n'est pas au niveau européen. On est la risée de l'Europe. Tous les championnats sont meilleurs que nous en Coupe d'Europe. Alors pourquoi ? On va nous dire, oui, il n'y a pas d'intensité en Ligue 1, tous les week-ends, ils ne sont pas prêts à jouer des matchs de Coupe d'Europe. Vous croyez qu'au Portugal, il y a de l'intensité tous les week-ends ? Oui, qu'en Pays-Bas, il y a de l'intensité tous les week-ends ? En Turquie, de l'intensité tous les week-ends ? En Belgique, de l'intensité tous les week-ends ? Et non. Et pourtant, les clubs sont là. Parce qu'il y a une tradition européenne dans ces championnats. En France, on n'a pas de tradition européenne. Combien de finales de Coupe d'Europe clubs français ont fait depuis les 20 dernières années ? 3. 2 fois Marseille en Ligue Europa, 1 fois Paris des champions, et c'était la fausse Ligue des champions, hein. Donc ils seraient jamais allés en finale. Donc voilà, le constat il est clair, on est nul, on n'a pas le niveau, il va falloir travailler et arrêter de dire qu'on est les champions du monde.
Jean, est-ce que toi aussi t'es totalement d'accord avec Thomas ou pas pour dire que la Ligue 1 on est moins bon que la Belgique, que la Turquie, même si dans les faits du coup...
Pas tout à fait, oui, mais dans les faits oui, il a raison, parce que je regardais pareil, il y a les clubs turcs qui y sont... Moi, je pense pas que... Bon, la première ligue, il y a une différence quand même avec la France. Mais en Espagne, je suis pas sûr que, par exemple, on voit bien sûr le Real, le Barça, l'Atlético, tout ça. Mais bon, n'oublions pas qu'il y a Riron, il y a des équipes comme le Rayo... Non, je crois pas qu'ils y soient.
Oui, le Rayo, c'est une très très bonne équipe. Ils ont fait top 10 l'année dernière. Tu prends Séville qui est avant-dernier, ils battent n'importe quelle équipe du championnat de France. Hein.
Ouais, je sais pas, moi j'ai quand même des doutes. Hein. Comment c'est Ria et tout. Je pense que la France évolue, mais c'est vrai, on n'a pas ce truc de Coupe d'Europe. Quoi. Il nous manque cet ADN. Ouais. Et ouais. Donc, et puis aussi, moi je commence aussi à m'inquiéter sur les tirs au but quand même. Je comprends pas tous les clubs français, là, on l'a vu, la France, je reviens pas à cet épisode douloureux, mais la Coupe du Monde, l'Euro, on n'a pas des tirs au but. Je sais pas s'il y a un truc, mais il faut quand même. Je comprends pas sur ces tirs au but qu'on perd tout le temps. Enfin, voilà,
moi j'ai la réponse. C'est que vous regardez les équipes qui ont perdu le tir au but, c'est l'équipe de France. Didier Deschamps comme entraîneur. Équipe de Rennes, Bruno Genesio comme entraîneur. Équipe de Monaco, Philippe Clément comme entraîneur. Trois entraîneurs là, ils ont plus de 40 ans. Ils sont dépassés sur les tirs au but. Avant, les tirs au but c'était la loterie, on faisait tirer n'importe où, à droite, à gauche. Les tirs au but, maintenant, ça s'analyse, ça se travaille. C'est quelque chose de très important. Et à mon avis, Genesio l'a dit, il le fait pas. Deschamps l'a dit, il le fait pas. Clément, j'en sais rien, mais il doit pas le faire.
Ouais, mais surtout qu'ils sont pas tout seuls. Mais je trouve ça quand même dur. Après, petit mot aussi pour Nantes. Même je trouve le carton rouge. Voilà, je voulais en parler. Le carton rouge, je le trouve très très dur.
C'est normal.
Là, c'est
le karma.
Ouais.
Le penalty final au Nantes qui les envoie en Europa League.
Ah ouais, non mais
hein, là. Rattraper.
Ouais, je trouve ça quand même.
Le carton rouge, jamais il d'avoir carton rouge. Hein.
Ouais, jamais il d'avoir carton rouge. Mais voilà, bon. Maintenant, comptons sur le PSG et
le JC Nice.
Et le JC Nice.
Moi, j'espère, c'est bête ce que je veux dire, hein, mais j'espère que ni Paris ni Nice vont se qualifier, juste pour qu'en fait, les gens, enfin, qu'on prenne vraiment conscience qu'en fait, là, on est nul. Je pense que l'indice UEFA, on est cinquième.
C'est ça, si les deux sortent, on sera plus cinquième à la fin de la saison, c'est sûr et certain.
Franchement, je pense qu'il y a d'autres championnats qui méritent d'être à notre place. Ouais. Donc, laissant les gens qui savent travailler devant nous.
Moi, je sais pas, c'est peut-être à nuancer. Je trouve que, ouais, on est moins bon que l'Espagne, que l'Angleterre, que
l'Italie.
Que
moi,
l'Italie.
L'Allemagne.
On est vraiment cinquième. De toute façon, il y a une large différence. Je crois qu'il y a 30 000 points entre l'Italie et la France. On est vraiment, je pense qu'on est à notre place. Et que, ouais, on est moins bon, là, sur cette saison.
Et d'ailleurs, vous savez, l'invention du top 5 européen, je ne sais pas si vous savez, mais c'est français. Hein, parce que avant, on ne dit pas top 5 européen, on dit top 4 européen. Nous, on a dit, bon, on va rajouter une cinquième place parce que nous, on va être dans le top. Alors, on va dire maintenant le top 5.
Non, la France, oui, la France est à l'écart. Moi, je pense que oui, il y a un top 4 européen et qu'après, il y a
France, Pays-Bas, Portugal.
Voilà, c'est ça. Il y a France, Pays-Bas, Portugal, groupe de 3 équipes. Et globalement, sur cette saison, on est en dessous, mais je pense que sur les 5 dernières saisons, on est quand même... un peu
je pense pas. Tu prends les deux clubs phares du Portugal, Porto, Benfica. À chaque fois, ça fait huitième de finale Ligue des Champions minimum. En France, les deux clubs phares, Paris, Marseille. On peut rajouter Lyon entre parenthèses. Ça fait jamais. T'es sûr d'avoir deux clubs en huitième de finale Ligue des Champions.
Ouais.
Après Sporting, c'était pas l'année dernière où ils font un huitième de finale et ils se prennent 8-0 contre le.
Ah mais faut y être en huitième.
Ah oui non mais oui. Mais moi je suis pas je
parle, moi je te parlais d'un côté hein, surtout.
Côté Chauvin, je pense que la France a quand même un petit. Enfin, on voit Reims là qui a un nouveau truc. Non, Nice qui amène un nouveau truc
et en Ligue 1.
Oui moi, en Ligue 1. Moi je dois correcter c'est qu'en fait quand tu vois le niveau de ces équipes là en Ligue 1 et quand tu vois ce qu'elles proposent. Non les équipes françaises. Ce qu'elle propose, c'est-à-dire quand, je sais pas, admettons, on fait comme Thomas qui a dit, on prend le premier de Portugal, deuxième Portugal, contre la Ligue 1. Mais en fait, tu te dis sur le papier, mais en fait, on les bat. Sauf qu'en fait, en Europe, c'est pas le cas.
Oui, il y a un truc, ils ont un truc ADN. Enfin, ils ont un truc pour se transcender en Coupe d'Europe.
Et que, bon, on n'est pas un pays de football, tout simplement.
Non, après, c'est que même ce grand truc-là, on la joue plus, mais il y a plein de clubs qui avaient avant pas envie de la jouer, la Ligue Europa.
Ah, mais moi, je me rappelle de clubs qui avaient pas du tout envie de jouer la Ligue Europa, ça. Des Bordeaux qui faisaient jouer l'équipe W pour jouer contre la Ligue Europa, et ça, c'est honteux.
Après, si je peux faire, je sais pas si la comparaison va être bonne, mais en rugby, il n'y a pas que ça. Il y a la Coupe d'Europe en France. La France s'en fout complètement. Il y a trois clubs qui jouent, c'est Toulouse, La Rochelle et les équipes comme Clermont, mais les Ligue Europa, ça peut être l'équivalent de la Challenge Cup, enfin Bayonne, il la joue absolument pas. On a pris 45 points, enfin on prend les jeunes.
Ça pas la même.
Après, le rugby a plus, le championnat est plus important.
C'est différent
que
parce que le top 14, c'est le meilleur championnat du monde. Donc là, quand tu parles de ce postulat-là, ils s'en
foutent. Oui, mais il y a plus d'important. Enfin, je vois qu'en rugby ou en foot, il y a peut-être plus d'importance pour la France, enfin pour le championnat de France, que la Coupe d'Europe. C'est un
après,
truc
en,
que je voulais dire.
En plus, avec la Super League qui arrive là, va falloir être dedans, parce que la Super League, qu'on veut ou non, ça arrive là. Moi, je vous le dis clairement, ça arrive. Ça arrive. Donc, si on veut être dedans, il va falloir être bon. Et pour l'instant, on n'est pas bon.
Il n'y aura que le PSG dedans.
Non, ils ont approché Marseille et Lyon pour être dedans.
Même Lyon. Ouais.
Bon, on quitte l'Europe.
Gros débat.
Et on rentre à la maison. Thomas, est-ce que le Pau FC est meilleur que les clubs français en Coupe d'Europe, en Ligue 2?
Non. J'aimerais bien voir ce qu'ils font en Ligue des Champions. Peut-être qu'ils feront mieux que d'autres clubs. Pau a encore perdu face à Saint-Etienne à l'extérieur, 2-0. Bon, défaite plutôt logique hein, quand on voit la taille des deux clubs. Du coup, ils sont 16e avec 27 points, à 4 points de la zone rouge. Attention, ça se rapproche. Prochain match face à Amiens, à l'extérieur encore, peut-être un peu compliqué. Mais va falloir qu'ils se réveillent un peu les Palois là. Même si, enfin, ils sont en danger sans être en danger. J'ai l'impression qu'ils font des séries. Ils n'arrivent pas à faire de séries, mais ils font une victoire, une défaite, un nul, une défaite, une victoire, deux défaites.
Tranquillement, oui, 15e place, ils sont bien.
Ils vont peut-être se maintenir. Ça sera dur, mais il y a de bonnes chances qu'ils se maintiennent.
Parce que je pense que derrière, c'est lent.
Après, derrière, il y a Dijon et Nîmes. Alors, si Dijon et Nîmes se réveillent par rapport à l'effectif qu'a Nantes.
Ouais. Putain, surtout que Pau a perdu son gardien.
Oui, bon, après, voilà. Un gars,
okay. Oliro.
Ouais, Oliro. Il est parti cirer le banc. Je sais plus où déjà. Reims. Voilà.
Sympa.
Voilà, on souhaite bonne chance à nos Palois donc, pour ce match à Amiens. Ben, merci à tous d'avoir écouté cette émission. À la prochaine. Ce week-end, deux affiches. Lens-Lille, le derby du Nord. Et Rennes-Marseille, donc match pour l'Europe. À la prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.